Rebonjour à vous. Je vous propose de commencer tout de suite la seconde rencontre de l'après-midi, donc avec René Lévy, que je remercie très vivement de sa présence. René donc, Lévy est philosophe, talmudiste. Il est traducteur de textes de la tradition hébraïque et par ailleurs directeur de l'Institut d'études lévinassiennes, directeur également scientifique de la collection Les Dix Paroles aux éditions Verdier. Collection Les Dix Paroles, qui est la collection donc, des grands textes de la spiritualité hébraïque, traduit donc en français, avec le plus souvent tout un appareil critique de notes qui permet d'être guidé dans ce continent de pensée. Il a publié un certain nombre de livres, soit de traduction, donc comme je disais, soit des livres en nom propre. Je citerai notamment La divine insouciance, qui est parue aux éditions Verdier, qui est une réflexion philosophique à partir du guide des égarés de Maïmonide, ce grand philosophe juif d'Andalousie. Et d'autre part, je citerai également Disgrâce du cygne, essai sur Paul de Tarse. C'est une analyse passionnante donc, de la pensée de Paul, de Saint Paul pour les chrétiens. Et d'autre part, un recueil de textes divers qui s'appelle Pièces détachées, qui est paru en 2014 aux éditions L'Âge d'Homme. René Lévy va nous entretenir présentement de la question suivante. Des méditations, Descartes, aux rêveries, Rousseau, la solitude à l'épreuve des hommes. Voilà, merci à toi René.
Merci. Merci Dominique. L'homme est, par nature, un animal politique. La formule d'Aristote est célèbre, peut-être trop. Que faut-il entendre ? Que l'homme est un vivant civil. Politikon zoon, un corps doué d'une âme, zoon, caractérisé par une disposition particulière, appelons-la la civilité politica, zoon politikon. Ailleurs, Aristote peut dire que l'homme est un animal rationnel, c'est-à-dire un vivant doué de logos. Vivant civil. Telle est ici la définition de l'homme en regard de la chose politique, politica, qui donne le titre de l'ouvrage. Jules Tricot, célèbre traducteur d'Aristote, note très justement qu'il existe dans le lexique d'Aristote une différence entre l'être civil, politikon, et l'être social, koinonikon. Soit qu'il existe une différence entre la civilité et la socialité. Comme il l'écrit, les sociétés humaines ne sont pleinement constituées et ne trouvent leur fin que dans la polis. Polis en grec, la cité. Ainsi, pour l'homme, la socialité s'achève et s'accomplit en droit dans la civilité. Elle atteint là, pour peu que les hommes le veuillent, son stade ultime. C'est pourquoi je poserai d'emblée, m'en référant au stagirite, Aristote, l'état social est différent de l'état civil, comme l'état de fait se distingue de l'état parfait. C'est ma proposition première. La suite de l'extrécité de la politique d'Aristote est moins connue, et c'est pourtant le passage le plus frappant. Aristote se demande, puisqu'il est établi que la civilité constitue une perfection de l'âme humaine, une arete en grec, une vertu morale, qu'en est-il d'un homme incivil, apolis, privatif de polis, apolis, qu'en est-il de l'homme incivil? Il va même plus loin. Qu'en est-il d'un homme incivil par nature? Et là, les lecteurs attentifs sont frappés. Dans la lecture du texte, car Aristote ne vient-il pas de définir l'homme un vivant civil par nature? Comment peut-il y avoir dès lors d'homme incivil par nature? C'est contradictoire. Il faut, pour lever la contradiction, revenir au grec. Aristote emploie d'abord l'expression phusei, naturellement, par nature, puis l'expression diaphusine, qu'on traduit aussi par nature, mais via la nature. Il oppose en outre cette dernière, le diaphusine, à diatuken, qu'on peut traduire par un coup du sort. Il oppose l'homme à polis, incivil, par nature, et l'homme à polis, incivil, sur un coup du sort. Par exemple, comme dit Tricot, un homme frappé de bannissement. Un homme frappé de bannissement est un homme incivil, apolis, séparé de la cité par un coup du sort. Par la polis diaphusine, il faut donc entendre l'homme qui s'est mis lui-même au banc de la cité, qui, de son propre chef, par un mouvement interne, diaphusine, s'est coupé de la cité. On retrouve là les deux définitions de la nature par Aristote, la perfection de l'étang d'une part, la force immanente de l'autre. Il y a deux définitions de la nature d'Aristote. Et c'est pourquoi il y a ici deux usages, deux expressions, phusei et diaphusine. Parler d'incivilité volontaire, c'est laisser entendre que la civilité, prise comme perfection naturelle, n'implique pas qu'il existe un penchant naturel à l'acte civil. Exactement comme l'intelligence, prise comme une perfection naturelle, n'implique pas qu'il existe un penchant naturel à l'acte intellectuel. Même si l'on admet avec Aristote que la civilité est une perfection de l'homme, il n'y a pas de penchant de l'homme à la civilité. C'est ce qui, précisément, rend possible en tout homme l'émergence d'une force immanente, deuxième acception de la nature, contraire à la civilité, comme émerge la sottise au cœur même de l'être intellectuel. Toujours dans le même extrait, Aristote frappe un deuxième coup, le coup le plus fort. Quel est-il cet incivil volontaire ? Je ne parle plus maintenant de l'incivil forcé, mais je ne vais plus m'occuper maintenant que de l'incivil volontaire. Aristote donne une première réponse. C'est l'être corrompu. Nous l'aurions deviné. C'est sa première réponse. Et soudain, il ajoute, sans plus d'explication, ou bien c'est quelque être supérieur à l'homme. Kreiton et Anthropos. Ou bien cet être incivil volontaire, d'ordinaire, connu d'ordinaire comme étant le délinquant, le corrompu, c'est quelque être supérieur à l'homme. Alors, c'est une incise surprenante, c'est une incise même frappante. Peut-être, suppose Aristote, est-ce un surhomme ? Ce serait, la traduction de surhomme pourrait être ici valoir. Peut-être est-ce un être angélique, voire un dieu. Nous dirons plus littéralement un plus comme. Je colle au texte grec. D'où vient dans ce texte qu'Aristote évoque le plus comme un civil involontaire ? D'où vient que s'agissant de l'être incivil, il envisage cette alternative, ou bien c'est un homme dégradé, dégénéré, ou bien c'est un plus comme. D'où lui vient soudain que le terme d'apolis est équivoque, qu'il dit une chose et son contraire. Mon hypothèse est non seulement qu'il faille distinguer dans l'individu l'être civil de l'être social, mais encore qu'il faille distinguer dans la société l'état social de l'état civil. Distinction qui a été ma proposition première. J'en conclus, comme Aristote a fait de l'être incivil, qu'il existe un état incivil, c'est-à-dire un état social contraire à sa destination naturelle, ce que les Grecs ont appelé la polis. Un état difforme, ou, comme on disait à la fin du XVIIIe siècle, un état dégénéré. Par suite, dans l'état social, conforme à sa destination naturelle, l'incivil volontaire est un monstre. En revanche, dans l'état social contraire à l'idéal de la polis, il est plus comme. Nous avons deux dilemmes. Primo, l'état social reste fidèle à sa destination naturelle. Dans cet état, soit un homme est civil, soit il est incivil, soit il est civilisé, soit il est un sauvage, un primitif. Secondo, l'état social est dégénéré. Dans cet état, un homme civil adhérent à ce monde est lui-même dégénéré. Nous l'appelons le mondain. L'incivil est, lui, dans cet état, plus comme. Dans la réalité positive, rien n'est certes aussi tranché. Toute société donnée oscille entre perfection et corruption, comme l'être incivil en regard oscille entre le monstre et le plus comme. Oscillation certes inégale, la tendance dégénérescente dans l'état social comme chez les inciviles étant la plus lourde. J'appelle solitude l'incivilité volontaire. Elle marque la séparation de l'homme avec le monde humain comme il est, avec le monde, comme on disait encore au XVIIIe siècle. Elle est séparation avec l'état social. Je la distingue, à la suite d'Aristote, de la solitude forcée, qui n'est pas séparation, mais exclusion. Exclusion dont on connaît aujourd'hui les formes, des formes nouvelles. Cette ambivalence de l'être incivil, de l'être apolis, dans l'histoire des idées, porte un nom propre, un nom double. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, s'il n'a pas été le premier, fut sans conteste le grand peintre de la solitude volontaire. Plus encore, il sut peindre l'ambivalence du solitaire, les oscillations de la polis, comme il sut décrire l'ambivalence de la société d'Ancien Régime, oscillant entre mondanité et civilité, entre corruption et perfection. Sur la solitude, il semble récuser Aristote d'une seule phrase. Je cite « Les méchants ne sont point dans les déserts, ils sont dans le monde. » Pour lui, la solitude forcée dégrade. La solitude volontaire, elle libère, elle rend l'homme à son humanité naturelle. Et je cite encore, « Je crois bien que des solitaires qui le sont par force peuvent, ronger de dépit et de regret dans la retraite où ils sont détenus, devenir inhumains, féroces et prendre en haine avec leurs chaînes tout ce qui n'en est pas à charge comme eux. Mais les solitaires, par goût et par choix, sont naturellement humains, hospitaliers, caressants. » D'ailleurs, la solitude forcée ne désigne pas seulement, comme le croit Aristote, la séparation physique avec le monde, la retraite forcée, voire l'emprisonnement. Elle est encore, plus encore, la solitude au monde. La solitude au monde, un trou, l'âme vide au cœur même de la foule, d'une foule sans présence, mais massive, grosse, oppressante. En somme, ce que j'appellerais un vide en plein. Pas l'isolement, la désolation, pas la solitude des campagnes, ni celle enchantée des montagnes lumineuses parcourues de ruisseaux, la solitude morale de Jean-Jacques. Je cite, « On a trouvé l'art de lui faire, à Jean-Jacques, de lui faire de Paris une solitude plus affreuse que les cavernes et les bois, où il ne trouvait au milieu des hommes ni communication, ni consolation, ni conseil, ni lumière, ni rien de tout ce qui pourrait l'aider à se conduire. Un labyrinthe immense où l'on ne lui laissait apercevoir dans les ténèbres que de fausses routes qu'il égarait de plus en plus. » Cette solitude vide de l'homme au cœur de la cité, cette forme inédite d'apolie s'éprouve comme solitude métaphysique, comme désolation du sujet face à l'apparence écrasante des autres multipliés. S'éprouve comme angoisse, comme nausée devant l'apparence sans présence de la multitude des êtres. Ce que je voudrais montrer, c'est que cette solitude métaphysique, d'abord forcée, d'abord subie, s'inverse forte de sa découverte inédite, l'apparence fausse des autres, en solitude active, en ce que j'appellerais subjectivation. De cette subjectivation, il existe deux temps forts, pour ainsi dire successifs, la méditation métaphysique et la rêverie. Premier moment, donc, la méditation métaphysique. On retient dans l'école et les manuels que Descartes a imposé la solitude de l'ego, de la certitude de soi conquise à la force de l'esprit via le doute méthodique, on a conclu à sa solitude et l'on a forgé le terme de solipsisme. La seconde modernité, la première étant marquée par la découverte du sujet métaphysique, la seconde modernité s'en est prise à la première violemment. Marx alluma l'amorce et c'est au XXe siècle qu'explosa la critique du solipsisme cartésien. Alors, on ne dira jamais assez que le XXe siècle a été le grand siècle du socialisme. À tout prix, on a voulu que le sujet soit originairement social. Alors l'adjectif est de Husserl. Originairement social. La thèse a débordé le cadre strict de la philosophie pour s'épancher dans l'espace politique, d'un extrême à l'autre. À l'extrême gauche, dans le coin de l'international socialisme, comme à l'extrême droite, dans celui du national socialisme. Comme s'il avait existé un esprit du socialisme dont philosophes et politiques furent, mutatis mutandis, les suppôts. Husserl dans les méditations cartésiennes, Heidegger dans Sein und Zeit, et Sartre dans l'existentialisme est-il un humanisme, ont œuvré à la socialisation, pour ainsi dire, du sujet métaphysique, du fameux ego. Cette citation de Sein und Zeit suffit à l'illustrer. C'est une citation donc de Heidegger. Le monde auquel je suis est toujours un monde que je partage avec d'autres parce que l'être au monde est un être au monde avec. Le monde de l'être là est un monde commun. L'être là est un être avec autrui. On ne peut pas être plus clair. Pourtant, il y a méprise, mévente, si vous voulez, de la certitude de soi. Il ne faut pas conclure, comme on l'a fait, à la solitude de soi, au solipsisme. De la certitude de soi, il ne faut pas conclure à l'incertitude quant à l'existence de l'autre, du moins chez Descartes. Bien au contraire, la certitude de soi, selon Descartes, amène à la certitude de l'autre, ce que je vais montrer. Plus exactement, la vision d'un corps m'amène à la certitude de l'existence de l'autre. Alors commençons par le commencement. Méditation métaphysique 2. Descartes. Commençons par la considération des choses les plus communes et que nous croyons comprendre le plus distinctement, à savoir les corps que nous touchons et que nous voyons. Pour exemple d'un corps, Descartes prend un morceau de cire. Tout cela est très connu. Il établit que c'est par la seule inspection de l'esprit, inspectio mentis, que l'on juge de ce qu'il est, ce morceau de cire. On en juge non par les yeux, non par nos sens, mais par l'esprit, par un jugement de l'esprit. Qu'est-ce qu'il est, ce morceau de cire ? Une pure étendue, partes extra partes, un bout d'étendue. Pourtant, et d'ordinaire, on s'arrête là, dans l'analyse du morceau de cire, mais Descartes ne s'arrête pas là. Il a comme une gêne. Et voici ce qu'il dit. Le langage est tenace. Il est presque plus fort que l'esprit. Et là, je cite Descartes. Cependant, donc après avoir établi, voilà que le morceau de cire, la cire, nous la connaissons en vérité par un jugement de l'esprit. Cependant, je ne me saurais trop étonner quand je considère combien mon esprit a de faiblesses et de pentes qui le portent insensiblement dans l'erreur. Car encore que sans parler, je considère tout cela en moi-même, les paroles toutefois m'arrêtent et je suis presque trompé, écoutez bien, par les termes du langage ordinaire. Nous disons que nous voyons la cire elle-même, si elle est présente, non pas que nous jugeons de ce qu'est la couleur et figure, qu'elle est présente. La gêne de Descartes, c'est que voilà, j'ai beau faire, s'agissant du morceau de cire, le langage ordinaire est plus fort que l'esprit. On est convaincu que nous voyons la cire telle qu'elle est. Gros problème pour Descartes. Faut-il céder au langage ordinaire qui plus est? Faut-il admettre que la présence de la cire, je souligne, la présence de la cire se donne à l'œil, se voit, plutôt qu'à l'esprit, se juge. L'esprit, faible, rendra-t-il les armes? Non. Et là, il se produit un coup de théâtre dans le texte de Descartes. Je lis. D'où je voudrais presque, donc c'est la suite immédiate de ce que j'ai cité, d'où je voudrais presque conclure que l'on connaît la cire par la vision des yeux et non par la seule inspection de l'esprit, si, par hasard, je ne regardais d'une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, à la vue desquels je ne manque pas de dire que je vois des hommes, tout de même que je dis que je vois de la cire. Et cependant, que vois-je de la fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes fins qui ne se remuent que par ressort? Mais je juge que ce sont de vrais hommes, et ainsi je comprends par la seule puissance de juger qui réside dans mon esprit ce que je croyais voir de mes yeux. Alors là, coup de théâtre. C'est ça. Il fait la même expérience qu'avec la cire. Il l'a fait avec des hommes qu'il voit passer sous sa fenêtre. Et là, ça marche. L'esprit triomphe du langage ordinaire. Pourquoi ? L'exemple du morceau de cire, insuffisante à plier le langage ordinaire aux exigences de l'esprit, s'est renforcé de l'exemple du corps de l'autre homme. Alors là, le langage rompt. L'esprit pur triomphe enfin des termes du langage ordinaire qui l'inclinait à mes jugés. Triomphe enfin de l'usage sur l'usage érosif de la parole coutumière. Alors, pourquoi ? Encore une fois. Comment l'exemple du corps de l'autre emporte-t-il, si je puis dire, le morceau ? C'est un vrai problème dans les méditations. Alors c'est ici, dans ce court passage, que réside, me semble-t-il, l'extrême audace de Descartes. Si, en dépit de tout, il croit voir le morceau de cire. En dépit de... C'est pas un petit esprit, Descartes. En présence d'hommes, Ils ne croient pas, cette fois, voir des corps. Il peut bien s'arrêter à l'apparence d'un corps de cire, quoi qu'il en juge. Il ne peut guère, s'agissant du corps de l'autre, s'en tenir à ce qu'il voit. Il faut qu'il juge que ce sont de vrais hommes. Il faut, en dépit du langage ordinaire, qu'il juge que ce sont de vrais hommes. La question s'impose. Qu'a donc le corps de l'homme de plus que le morceau de cire, qui ne se voit pas? La réponse, qui n'est qu'un début de réponse, le corps de l'homme n'est pas que matière ni qu'étendue. Est-ce à dire qu'il est, à la différence du morceau de cire, vivant ? Non. Ce n'est pas assez de dire qu'il est vivant. Le corps d'un animal est vivant. Et pourtant, pour Descartes, il équivaut à un morceau de cire. Il n'est que matière vivante. Qu'a donc le corps de l'autre homme d'invisible, de visiblement invisible, que n'a pas l'étendue, même vivante, simplement invisible, et prise pour ses qualités sensibles. Que juge donc Descartes qu'il y a derrière l'apparence humaine ? La réponse de Descartes, ce sont de vrais hommes. L'original latin, auquel il faut toujours revenir quand on travaille sur les méditations, l'original latin dit simplement « sed judico homines esse ». Mais je juge que ce sont des hommes. La version française, rappelez-vous, mais je juge que ce sont de vrais hommes. Le latin est plus bref, mais je juge que ce sont des hommes. Le français, contrairement au latin, c'est une parenthèse, contrairement au latin qui se contente d'homines, doit préciser de vrais hommes, comme s'il ne suffisait pas de dire des hommes. Tant il est vrai que le seul mot d'homme en langue française ne disait déjà plus du temps de Descartes la vérité de l'homme. Tant il est vrai que c'était déjà un mot vide. Mais qu'est-ce donc qu'un vrai homme ? La vraie cire, c'est un bout d'étendue, soit. Mais le vrai homme, et Descartes n'en dit rien. C'est ça qui est surprenant. Il n'en dit rien. Il l'admet. Je juge que ce sont de vrais hommes. Et c'est gagné. Alors, posons la question à l'envers. Qu'est-ce que n'est pas le vrai homme ? Alors, encore une fois, la version française est embarrassée. Elle parle de spectres et d'hommes fins, seulement mus par des ressorts. Ça, c'est la version française. La version latine dit simplement « automata », des automates. Le vrai homme n'est pas un automate. Or, qu'est-ce que je vois par la fenêtre de mes seuls yeux ? Ni plus ni moins que des automates sous des habits d'homme. Sont-ce des automates ? Non. Car outre que je vois, je juge, judico. À travers les yeux, l'esprit passe. Je vois des apparences, mais je juge de l'être. C'est parce que toute vision des yeux n'est pas pure, mais s'accompagne toujours d'une inspection de l'esprit, d'une inspectio mentis, que les apparences sont percées à jour. Alors que vois-je ? Des automates. L'automate a bien un corps, mais il est artificiel. S'il se meut par lui-même, s'il est automaton, comme dit le grec, c'est seulement à cause qu'il est mu par des ressorts, comme dit la version française. Alors qu'est-ce que veut dire là Descartes sans le formuler expressément ? Parce qu'il faut deviner Descartes pour le comprendre. Il n'a pas tout dit. Hélas. Que veut dire Descartes ? Que c'est un corps dont le principe moteur n'est pas une âme. Je parle de l'automate. Le corps de l'automate, c'est un corps dont le principe moteur n'est pas humain, une âme. Car Descartes se souvient des leçons d'Aristote, l'âme est principe interne du mouvement des corps. Par opposition donc, comme l'indique la version française, au corps mu par des ressorts. Les ressorts n'étant pas, à proprement parler, un principe interne, mais une machinerie. Alors c'est là qu'on s'arrache les cheveux. Quoi ? Lui, Descartes, nous dit ça ? Descartes, l'auteur du traité de l'homme. Bon, je ne sais pas si vous avez lu les œuvres complètes de Descartes. Oui. Descartes, dans le traité de l'homme, se présente comme le grand contempteur de la psychologie d'Aristote, le précurseur enthousiaste du mécanisme moderne. Lui, Descartes, pour qui le corps est une machine. Ça, vous le savez. Bon. C'est presque un slogan publicitaire. Je suppose, je cite Descartes, je suppose que le corps n'est autre chose qu'une statue ou machine de terre que Dieu forme tout exprès pour la rendre la plus semblable à nous qu'il est possible, qu'il mette au-dedans toutes les pièces qui sont requises pour faire qu'elle marche, qu'elle mange, qu'elle respire, et enfin qu'elle imite toutes celles de nos fonctions qui peuvent être imaginées procéder de la matière et ne dépendent que de la disposition des organes. Alors, supprimez ici la supposition d'un démiurge, ce que vous ferez aisément, que reste-t-il ? Que le corps, même animé, procède de la seule matière et ne dépend que de la disposition des organes. Une âme ? Fit donc. Une âme dans un corps ? Baliverne. L'animal ? Qu'est-ce que l'animal ? Une machine autolocomotrice. S'il s'était penché par la fenêtre, qu'il avait vu passer une vache, Descartes n'eût admis par l'inspection mentis qu'une étendue, qu'un bout de matière vivante, seulement mu par des ressorts, comme il a fait du morceau de cire. Pareil. Le corps est une machine, nous dit-il dans le traité de l'homme. Alors quand il voit un corps par la fenêtre, ça n'est pas plus qu'un morceau de cire, c'est un bout de matière vivante. Un animal, soit, mais pas l'homme. De la vision d'un corps d'homme, Descartes n'a pas conclu à l'existence d'un morceau de matière humaine, mais à son être homme. Et c'est homo, iudico homines, esse. Je juge que ce sont des hommes. Descartes conclut à l'existence de l'être homme. Et c'est cela qu'il appelle l'âme dans les méditations. Pourquoi l'appelle-t-il l'âme ? Parce que, à la différence de l'animal, animal voulant dire animé, voulant dire donc doué d'une âme, en latin anima. Pourquoi l'appelle-t-il l'âme ? Parce que l'âme humaine est esprit, mens. Parce qu'il n'est pas d'âme véritable que l'esprit. L'âme animale, ce qu'on appelle l'âme animale, n'en déplaise à nos contemporains. L'âme animale n'est qu'un semblant d'âme, réductible à la machine. C'est que, selon Descartes, l'âme ne doit plus être définie à la manière d'Aristote, comme un principe interne du corps. Il l'a exclu, puisqu'il récuse la psychologie aristotélicienne, mais à la manière de Platon, comme un principe séparé. L'âme ou l'esprit est un principe séparé. Ça n'est pas le principe interne du corps ou immanente au corps, sa forme, ce qu'Aristote appelle l'âme. Ça n'est pas ça. C'est un principe séparé. Descartes le dit clairement. Ce moi, dans les méditations, ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps. Voyant des hommes passer sous sa fenêtre, Descartes juge que ce sont des corps-esprits. Voilà l'opération. De la certitude de soi comme esprit-corps, cogito ergo sum, conclure à la certitude de l'autre comme corps-esprit. Je répète, de la certitude de soi comme esprit-corps, conclure à la certitude de l'autre comme corps-esprit. De la certitude du cogito ergo sum, je descends à la certitude d'un corps propre et, voyant l'autre, je remonte de son corps à la certitude qu'il existe un esprit, ce qui s'appelle l'homme. Par là, par ce chiasme, par la certitude de l'esprit partagé, le solipsisme est dépassé. L'ego n'est plus seul. L'ego, par la force de son inspection, accède à la coexistence. Certes, l'apparence humaine est fort close dans cette sorte de nimbe épaisse de poids. Rien ne perce, sauf l'esprit. Deuxième moment de la solitude métaphysique. Deuxième moment, Rousseau. Le moment, vous l'avez compris, le moment le plus critique et le plus poignant. Alors, parler d'un deuxième moment, c'est signifier l'échec du premier. C'est signifier l'échec ou l'insuffisance du premier. C'est signifier l'échec ou l'insuffisance de Descartes. Et telle est bien mon hypothèse. Descartes échoue dans sa tentative de fonder la coexistence sur la certitude de l'esprit partagé. Pour une raison simple. Rousseau, poussant plus loin, découvre une chose. Il découvre que l'esprit n'est pas réel. Dès lors, sa solitude a été absolue. La question n'est plus à cet instant qu'est-ce que Descartes perçoit des corps multiples, mais plutôt qu'est-ce que Rousseau ne perçoit pas, qu'il eût dû percevoir, dans la multitude retrouvée. Avec Descartes, l'ego a fait son retour dans le monde. Son incivilité, qu'on a appelé le solipsisme, ou solitude métaphysique de soi, n'était que passagère. L'ego retrouve la multitude et le goût des autres. Alors, ce n'est plus, bien sûr, la multitude en apparat. Ce n'est plus la multitude des bonnets et des manteaux. Entendez, sous l'image de Descartes, entendez la multitude de cour, la cour du roi. La cour des courtisans et des mondains, c'est la multitude dépouillée, pour ainsi dire, de toutes ces qualités secondes, comme on dira par la suite, de tous ces oripeaux. C'est la multitude nue des corps-esprits. la méditation métaphysique du sujet solitaire commande à son retour à l'état social, mais un état social, cette fois régi non plus par la vision des yeux, mais par l'inspectio mentis. La méditation métaphysique commande son retour à la société des Lumières. La multitude de cours cédant la place à la multitude de salons. La critique de Rousseau, contemporain des Lumières, a été cinglante. Cette multitude nue des corps-esprits n'est qu'une multitude vide, sans réalité. Aussi le soi redevient-il incertain dans le monde. Incertitude qui n'est plus celle d'exister. Rousseau prend acte du cogito ergo sum. Ce n'est pas une incertitude d'existence. C'est la certitude d'exister, elle est acquise. C'est une incertitude de consister. Pire, c'est une incertitude d'être aggravée par la certitude d'exister. Imaginez-vous, vous avez la certitude d'exister. Cogito ergo sum, j'existe. Seulement voilà, ce moi qui existe, cet ego qui existe, il ne consiste en rien. Ça, c'est Rousseau. Dans ce retour au nouvel état social, appelons-le les Lumières, soi et tous les autres font l'épreuve du vide. À Descartes qui déclare « Je n'admets en moi autre chose qu'un esprit », Rousseau réplique que l'esprit n'est pas réel, que ce dont l'esprit se pare, le savoir ou l'éloquence, n'est à son égard que ce que sont les bonnets et les habits, pileos et vestes en latin, à l'égard du corps. Le savoir et l'éloquence ne sont à son égard que ce que sont les bonnets et les habits à l'égard du corps, de fausses apparences. Quoi, Descartes, tu as cru déjouer les apparences par l'inspectio mentis? N'as-tu donc pas pensé qu'il fallait la diriger, cette inspection, contre l'esprit lui-même? Sait-on seulement s'il n'est pas mu par des ressorts, cet esprit? Que l'esprit, donc, se perce à jour. Voilà l'opération de Rousseau. Opération douloureuse, à vif. Devant le grand vide de l'esprit, sans réalité au-dedans, l'homme se cherche hors de lui de la consistance. C'est ce qu'on appelle l'affectation. Je cite, c'est très beau, c'est très, très belle phrase de Rousseau. L'homme sociable, toujours hors de lui, ne sait vivre que dans l'opinion des autres et sait, pour ainsi dire, de leur seul jugement, écoutez bien, de leur seul jugement qu'il tire le sentiment de sa propre existence. Quel renversement du solipsisme cartésien. Descartes tirait de la certitude de soi le jugement d'existence des autres. L'homme sociable, nous dit Rousseau, tire du jugement des autres le sentiment de sa propre existence. L'ego n'est plus premier, c'est les autres. Le jugement d'existence, ce n'est plus le sien, c'est le leur. Et c'est d'eux qu'il tient le sentiment de sa propre existence. Alors pourquoi ce renversement chez Rousseau? Et l'ego cogito, quoi? Qu'est-ce qu'il en fait? Et la certitude de soi, quoi? Ah, soi, qu'est-ce que c'est que soi? Soi n'est pas plus vrai que l'autre dont Descartes a jugé qu'il était vrai. Tel est l'autre, tel je suis. Un esse homo, certes, un être homme, mais vide. Un être homme sans vérité. Et l'être se donne d'autant plus d'apparence qu'il a moins de vérité. Il devient un être factice. Rousseau, tout se réduisant aux apparences, tout devient factice et joué. Car il n'y a pas, dans le nouvel état social, d'évidence de la vérité de soi, ni comme vivant, ni comme esprit, ni comme chose pensante. Comme si la vérité de soi n'équivalait plus à la simple conscience de soi, comme si la vérité de soi ne signifiait plus, comme le croit un esprit mathématique, la certitude de soi. Qu'au contraire, plus exigeante et plus intérieure, la vérité de soi s'affranchissait de toute certitude. Descartes lui-même ne l'admet-il pas quand il se demande « Moi qui suis, que suis-je ?» Crie presque de vérité dans les méditations. « Moi qui suis, que suis-je ?» La certitude du soi le laisse vide. Vide la connaissance de soi dont la vérité dépend. Rousseau a devancé Hegel, le philosophe social par excellence. Hegel pour qui la vérité de soi est la certitude de soi pour l'autre. Non, dit Rousseau, la vérité de soi n'est pas la certitude de soi pour l'autre. Elle est la vérité de soi pour soi. Ce que Rousseau, tributaire du sensualisme de l'époque, appelle la jouissance de soi. Nous l'appellerons plus humblement la rêverie. Tout état social, l'ancien comme le nouveau, marque l'empire du mensonge, de la fausse apparence et du travestissement. Dans l'état social, dit Rousseau, nous n'avons qu'un extérieur trompeur et frivole, de l'honneur sans vertu, de la raison sans sagesse et du plaisir sans bonheur. Ce sont des apparences creuses, comme sont les bonnets et les vestes. Apparences creuses, sans plus cette fois, cette chair d'homme où l'esprit se love. Des idéaux masquant l'âme comme l'habit masque le corps. Honneur, les mots sont choisis, honneur, raison, plaisir. Pourquoi Rousseau choisit-il ça, ces termes? Parce que ce sont, au XVIIIe siècle, des emblèmes. Honneur, raison, plaisir, les trois mots d'ordre du XVIIIe siècle. Rousseau a ces mots sublimes. Tous cherchent leur bonheur dans l'apparence. Nul ne se soucie de la réalité. Tous mettent leur être dans le paraître. Tous, esclaves et dupes de l'amour-propre, écoutez bien, ne vivent point pour vivre, mais pour faire croire qu'ils ont vécu. Extraordinaire phrase de Rousseau, c'est sidérant. On n'a plus le courage de vivre après ça. Dans cet état social, dans cet empire du mensonge, les corps-esprits forment une sarabande, l'esprit social. Rousseau ne laissera pas de le dénoncer comme un esprit corrupteur. Que corrompt-il, au fond? Qu'est-ce qu'il corrompt? Mais s'il n'y a pas, somme toute, dans le monde que des esprits faux, on pourrait se lamenter, dire « c'est tragique, il n'y a que des esprits faux ». Non. Rousseau parle de l'esprit social comme d'un esprit corrupteur. Il faut donc qu'il existe un être corruptible. Quel est-il, cet être? C'est l'autre grand point de la critique de Rousseau. La critique de tout état social suppose qu'il existe, par le vide, par-delà le vide de l'esprit social, une réalité humaine. L'existence d'un, c'est l'expression de Rousseau, d'un état originel de l'homme, différent de son état social, que son état social a corrompu. Je cite, « Il me suffit d'avoir prouvé que ce n'est point là l'état originel de l'homme et que c'est le seul esprit de la société et l'inégalité qu'elle engendre qui change et altère ainsi toutes nos inclinations naturelles. » La méditation métaphysique mettait à nu la conscience de soi et tendait à juger à travers la vision oculaire du corps des autres de leur être homme, des autres seulement, puisque soi, l'ego, se donnait comme une évidence, cogito ergo sum. Le solipsisme cartésien, la solitude de l'ego cogito, se surmontait dans la perception intellectuelle des autres comme corps-esprit, se surmontait dans la coexistence. L'exigence de Rousseau, plus radicale, conduite au cœur même de la coexistence, au cœur même de la société des Lumières, à la solitude du moi, à la séparation avec ses semblables, à la sortie définitive de l'état social. Sortir de l'état social signifie donc rentrer en soi, retourner à son état originel, en quête des premiers traits de son humanité. La solitude passive, comme on l'a déjà vu, s'inverse une nouvelle fois en solitude active. Rousseau ne subit plus la solitude, il l'inverse en solitude active et volontaire. Je cite, « Une vie retirée et solitaire, un goût vif de rêverie et de contemplation, l'habitude de rentrer en soi et d'y rechercher dans le calme des passions, ses premiers traits, disparus chez la multitude, pouvaient seuls les lui faire retrouver. » Tout l'effort de Rousseau a été d'atteindre à la perception, au sens de Descartes, de l'homme vrai, non plus seulement l'autre homme comme Descartes, mais soi, retrouver sous la certitude de soi l'homme réel, qu'il appelle l'homme primitif, l'homme de la nature. Il veut s'en faire le peintre et l'apologiste, d'où le peintre et l'apologiste de la nature, aujourd'hui si défiguré et si calomnié, peut-il avoir tiré son modèle, si ce n'est de son propre cœur? Il l'a décrite comme il se sentait lui-même, les préjugés dont il n'était pas subjugué, les passions factices dont il n'était pas la proie, n'offusquaient point à ses yeux comme à ceux des autres, ses premiers traits, si généralement oubliés ou méconnus, ces traits si nouveaux pour nous et si vrais, une fois tracés, trouvaient bien encore au fond des cœurs l'attestation de leur justesse. Mais jamais il ne s'y serait remontré d'eux-mêmes si l'historien de la nature, entendait Rousseau, n'eût commencé par ôter la rouille qui les cachait. En un mot, il fallait qu'un homme se fût peint lui-même pour nous montrer ainsi l'homme primitif. Seul cet homme vrai, cet homme de la nature, sorti de l'état social, cet homme dérouillé vit vraiment. Pas d'une vie seulement mue par des ressorts de la vie de l'automate ou de l'homme social, ni d'une vie animale, ni d'une vie sociale, mais de la vie humaine. Rousseau dit de cet homme qu'il est introuvable. Je cite, « Mais où est-il cet homme de la nature qui vit vraiment ?» Comme quoi il ne s'identifiait pas si aisément à cet homme de la nature. Mais où est-il cet homme de la nature qui vit vraiment de la vie humaine, qui, comptant pour rien l'opinion d'autrui, se conduit uniquement d'après ses penchants et sa raison, sans égard à ce que le public approuve ou blâme? On le chercherait en vain parmi nous. L'homme réel est si seul qu'il est introuvable parmi nous. Qui nous ? Nous, les égaux, les esprits corps, communiant dans la certitude arrogante d'exister et pourtant perclus de froide inconsistance. Nous, les esprits d'hommes vides, fourrés de science et de lettres, comme les corps charnus de vivants automates. Nous, société d'hommes évidés, avides d'un public, sauf votre respect, qui nous donne chair. Dans l'état social, la réalité humaine a disparu. Il faut donc, nous dit Rousseau, sortir de cet état. La sortie de l'état social, de ce nous en serrant chacun, s'opère par la rêverie. La rêverie devient nécessaire, impérieuse. Par elle seule, le moi, à mesure qu'il sort de son état social, revient à lui comme d'une profonde léthargie. Que signifie ce retour à soi ? Pas une régression à l'état sauvage. Pas une régression au marcher à quatre pattes, comme le sot esprit Voltaire a voulu le croire. Je ne sais pas si vous avez lu la lettre de Voltaire à la suite du discours sur l'origine des inégalités. C'est une lettre ignoble, mais lisez-la, c'est instructif. Parce que le soi, ce n'est donc pas une régression à l'état sauvage. Parce que le soi dont il s'agit désormais n'est plus le soi séparé du solipsisme ou du monachisme, je l'ajoute, pour nos voisins. C'est un soi dont la réalité, à l'excès, ne se distingue pas de celle d'un autre, si bien qu'il ne s'agit plus de coexistence, mais de réalité commune. C'est pourquoi cette sortie ne signifie pas, comme dans le monachisme, sortie du monde ou solitude absolue. La sortie de l'état social prépare, au contraire, l'entrée dans l'état civil. Et c'est pourquoi Rousseau termine son œuvre par les rêveries et le contrat social. Rousseau a ces mots surprenants qui le réconcilient avec Aristote, où l'homme réel éclaire enfin l'idée du plus comme. Je cite, « Mais je sais aussi qu'une solitude absolue est un état triste et contraire à la nature. » Écoutez bien, notre plus douce existence est relative et collective, et notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Telle est la constitution de l'homme en cette vie qu'on n'y parvient jamais à bien jouir de soi sans le concours d'autrui. Phrase. Formule sublime, notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Est-ce à dire qu'il est pour une part dans le public ? Bien sûr que non. Est-ce à dire qu'il est dépendant des autres ? Par une sorte de chaîne éthique primordiale, j'en sais quelque chose à l'état à l'Institut d'études ignatiennes. Non plus. Est-ce qu'il est dépendant d'eux pour sa jouissance ? Non. Sa vérité, simplement, la vérité du moi, simplement, l'excède et le déborde. Notre moi, notre vrai moi, n'est pas tout entier en nous. L'ego seul ne contient pas tout le vrai moi. C'est une découverte incroyable. Dans l'excès, dans cet excès de la vérité du moi sur l'ego, ce que j'appelle la réalité humaine, ce qu'Aristote appelle le plus comme, les autres vrais hommes, excédés à leur tour, sont une part de moi-même, comme je suis une part de la leur. Il ne s'agit pas d'un espace commun qui n'est jamais qu'un espace de concurrence des égaux et de lutte pour la reconnaissance. Il ne s'agit pas d'une lice, mais d'une réalité commune. Dans cet excès de la vérité du moi, d'un homme à l'autre, un nous véritable est possible. Cela s'appelle l'état civil. Je vous rassure, un état non encore advenu. À cet égard, la sortie de l'état social prépare la révolution dans le sens absolu. Merci.